pourquoi les paresseux dans leur ensemble sont-ils couverts d'opprobre, quand le moindre travailleur est voué à la gloire? J'ai toujours pensé que ce devait être exactement le contraire. Le travail doit être maudit, comme l'enseignent les légendes sur le paradis, tandis que la paresse doit être le but essentiel de l'homme. Casimir Malevitch, La paresse comme vérité effective de l'homme, 1921.
Un podcast, une œuvre, Art et paresse, Casimir Malevitch, Croix noire, 1923-1926. Vous écoutez Un podcast, une œuvre, une émission du Centre Pompidou qui éclaire une œuvre de ses collections à la lumière d'un thème d'actualité. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de Malevitch, peut-être pas. Moi, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était en cours de philo, en terminale, où la prof nous a parlé d'une peinture intitulée « Carré blanc sur fond blanc ». Dans les rangs, personne ne comprenait vraiment le sens de cette toile, et puis, allez, après tout, hein, le peintre qui avait eu cette idée, c'était quand même pas foulé, vous trouvez pas ? C'est le même désarroi qui m'a envahi quand j'ai appris que j'allais réaliser un épisode sur une autre œuvre de Malevitch, une croix noire. Si je vous raconte tout ça, c'est pour vous inviter à me suivre dans cet épisode, car à force de lecture et de rencontres, j'ai trouvé ce qui se cache derrière ces formes géométriques d'apparence si simples. On y trouve, en vrac, une histoire de l'avant-garde russe au tout début du XXe siècle, une réflexion sur la couleur et sur ce que créer sans représenter signifie. Pour comprendre tout ça, on peut commencer par se rendre dans les collections du Centre Pompidou. En guise de guide, je suis accompagnée par une personne qui, elle aussi, un siècle après Malevitch, peint des formes géométriques en noir et blanc, l'artiste Nicolas Chardon.
Par exemple, j'aime bien ce grand couloir de peinture. Les salles du Centre Pompidou sont distribuées autour d'une grande galerie de peinture, comme une sorte de galerie qu'on peut traverser, et un peu comme on traverserait une galerie de l'évolution de la peinture. On passe devant Mondrian et ses amis. Malevitch se situe pas très loin. Là, on est plutôt au Bauhaus maintenant. Et Malevitch nous appelle. Les tableaux assez sauvages.
C'est-à-dire...
Ce qui m'intéresse beaucoup, moi, dans la peinture de Malevitch, c'est que c'est pas un peintre poli. C'est un peintre assez violent, en fait. Là, on voit les tableaux des années 30, donc plutôt de la fin de sa vie, qui semblent revenir à une espèce de primitivisme qu'on avait connu dans l'origine de sa peinture. Quand on voit les tableaux suprématistes, comme la croix, on voit bien que c'est évidemment pas une peinture géométrique.
Alors, précision importante. Cet épisode parle d'une croix noire un peu particulière sur un morceau de plâtre, et on va y arriver progressivement. Mais pour que vous compreniez, il faut d'abord qu'on parle d'une autre croix noire sur une toile qui est bien plus célèbre, celle que décrit Nicolas Chardon.
Alors bien sûr, la croix de 1915 n'est pas tout à fait une croix. En fait, on sait bien que c'est plus une forme d'hélice ou de mouvement du carré.
Si vous pouvez décrire si ce n'est pas une croix, comment vous la décririez-vous?
Oui.
Si on dit que ce n'est pas une croix alors que c'est littéralement son titre?
Alors, c'est une croix, c'est une croix qui est un peu, dont on voit que les branches sont un peu déformées, qui semblent basculer.
Alors, la croix noire de Casimir Malevitch, qui se trouve aujourd'hui dans les collections du Musée national d'art moderne Centre Pompidou, est une toile de format carré.
La personne que vous entendez, c'est Elitsa Dulgerova, maîtresse de conférences en histoire et en théorie de l'art, spécialiste de l'histoire des idées en Russie, URSS, au début du XXe siècle, et qui connaît donc, vous allez le voir, extrêmement bien l'œuvre et la vie de Malevitch. Bon, cette croix noire alors.
Qui fait 80 sur 80 cm, qui a été peinte en 1915, exposé par Malevitch dans le cadre d'une exposition collective qui s'est tenue à Petrograd, actuel Saint-Pétersbourg, entre décembre 1915 et janvier 1916. Et Malevitch y présentait 39 œuvres qu'il dénommait pour la première fois suprématistes. C'était une sorte de manifeste pictural qu'il lançait en même temps qu'il commentait aussi dans ses textes. Plus tardivement, dans les années 1920, Kazimir Malevitch allait qualifier cette croix ensemble avec le carré noir sur fond blanc, initialement appelé quadrangle, toujours présenté aussi en 1915 à la même exposition, et un cercle noir, et puis le carré blanc sur fond blanc aujourd'hui, donc qui est plus tardif, qui lui est de 1918 et aujourd'hui conservé au Musée d'Art Moderne de New York. Il allait qualifier ces quatre toiles de toiles fondamentales, de structures fondamentales du suprématisme. Il hésite pendant les années 20 entre les deux carrés et le cercle qui, pendant un moment, lui semble plus important. À partir de 1923-24, cette forme de la croix noire va intégrer quelque chose qu'on peut considérer aujourd'hui comme une triade suprématiste, donc le carré, la croix et le cercle. Et pourquoi donc cette croix lui paraissait-elle faire partie des formes comme ça majeures, fondamentales de cet ordre suprématiste ? Eh bien, parce que c'était aussi bien la croix que le cercle étaient des manières de montrer le mouvement des formes, de cette forme première qui est le carré. Le cercle, c'est la rotation en quelque sorte du carré dans une dimension supplémentaire, donc non seulement bidimensionnelle. Et la croix, c'est la superposition de deux formes, de deux carrés étirés, qui montrent aussi une sorte de dynamisme.
Voilà, donc Kazimir Malevitch, en 1915, avec l'exposition appelée 010, va poser les bases d'un mouvement artistique où ne sont représentées que des formes géométriques. Un mouvement artistique appelé suprématisme.
Alors, le suprématisme, comme son nom l'indique, contient la racine suprême, donc c'est un art en quelque sorte pour Malevitch suprême. Là, c'est l'aboutissement de plusieurs expérimentations plastiques du début des années 10. Le texte qu'il va publier en 1915 à l'occasion de cette même exposition, en première inaugurale, s'intitulait d'ailleurs « Du cubisme et du futurisme vers le suprématisme, le nouveau réalisme pictural ». Donc le suprématisme, c'est un aboutissement pour Malevitch. C'est un art qu'il va aussi qualifier d'un art sans objet. Un art sans objet, c'est-à-dire un art qui a vraiment coupé tout lien avec la reproduction de la réalité telle qu'on la voit, telle qu'on en fait l'expérience tous les jours, donc avec la réalité visible. Donc c'est un art clairement non imitatif, donc qui refuse l'imitation de ce qu'on voit, qui s'éloigne de la représentation du visible, mais qui cherche à exprimer, selon Malevitch, une réalité supérieure. D'où le côté suprême. Et qu'est-ce que c'est cette réalité supérieure ? C'est d'une part une réalité de la peinture, c'est-à-dire que c'est un art qui va s'intéresser aux propriétés de la peinture en dehors de toute imitation.
La peinture n'est plus un matériau pour représenter le réel. La peinture devient un objet en soi, qui a sa propre vie, son propre mouvement, qui devient son propre sujet. Et qui véhicule en soi des émotions et des sensations. Il faut pour cela revenir à l'essentiel, la couleur, le trait et la technique de peinture.
Malevitch va travailler avec des formes simplifiées, qui donnent l'impression d'être des formes géométriques. Elles le sont d'une certaine manière, mais elles sont toutes tracées à la main. Et ça le différencie d'autres courants artistiques comme le constructivisme où tout était fait à la règle, au compas. Malevitch, c'est un travail à la main. Quand on voit ses œuvres, et c'est très très clair dans La Croix noire, on voit bien qu'il ne s'agit pas de deux bandes régulières qui sont tracées à la main, mais ils sont irréguliers, ils ne sont pas à 90 degrés. Et d'ailleurs, il appelait ça des plans cruciformes. Une des premières appellations de l'œuvre, c'était plan cruciforme noir. Donc il s'intéressait aux formes, il s'intéressait aux couleurs, il s'intéressait à la matérialité de la peinture, ce qu'on appelait la facture, la factura, qui avait suscité énormément de débats dans ces années-là. Donc c'est un réalisme pictural au sens où ça exprime la réalité de la peinture en dehors de toute imitation du réel. Mais pour Malevitch, c'était aussi un monde en soi, un monde vivant. Et il disait dans l'art sans objet, et je le cite, « Les formes ne seront pas la répétition des objets qui vivent dans la vie, mais seront elles-mêmes un objet vivant. Donc les formes vont vivre. Il le dit aussi dans plusieurs textes, les formes vont vivre. Donc il cherche en fait à construire un monde pictural où les formes vivent. Or, pour qu'une forme vive, puisse vivre sur une surface bidimensionnelle, il y a tout un travail à faire. Donc, c'est pour cela qu'il va accorder une importance très grande à la notion de l'espace. Et c'est difficile de voir ça, évidemment, en reproduction. Mais quand on regarde les œuvres, on voit des différences de facture entre les formes et le fond, par exemple. Et puis, les formes ont tout le temps l'impression de légèrement se mouvoir. On le voit dans La Croix noire, où on a l'impression que le plan central à la fois s'élève vers le haut et tourne à gauche, tandis que le plan horizontal, lui, semble bouger de manière latérale. Donc, même avec des formes très très simples, Kazimir Malevitch cherche à, plutôt à évoquer un certain mouvement.
Plus de ce biais, Malevitch procède toujours par des sortes de retouches ou de reprises de ce qui semble être le fond pour dessiner la forme. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très exemplaire pour moi. C'est quelque chose qui survient aussi dans ma peinture de la même façon, c'est-à-dire que ce qu'on comprend comme le fond est en fait une contre-forme. J'aime cette rudesse et cette relative violence qu'il y a, y compris dans une forme relativement simple et avec peu d'effets. Par exemple, quand on voit les dessins de Malevitch, il y en a quelques-uns qui sont présentés dans la salle, on voit cette, une espèce de tension entre une géométrie qui semble à main levée. Ce qui me frappe toujours, moi, ce sont la façon dont il représente le contour du tableau, en quelque sorte, qui est souvent une espèce de rectangle ou de plus ou moins carré, complètement à main levée, dont on imagine qu'il n'y a pas d'intention artistique. Finalement, il n'est pas très éloigné des rectangles que j'obtiens grâce à ma méthode de travail. Et donc je me dis qu'il y a quelque chose qui échappe sans doute à Malevitch lui-même dans ce léger tremblement de la ligne droite, mais qui montre aussi, je crois, son attention à ce qui va subvenir de la géométrie, ou ce qui va arriver après. Et c'est là où je pense qu'on peut faire un parallèle, même si en fait on a quand même son temps d'écart. Moi, en suivant la ligne de la toile déformée, je ne fais que souligner un fait qui s'est déjà passé. Et finalement, ma peinture est un après-coup. C'était aussi l'ambition de Malevitch dans Suprématisme, dans ce qu'il imaginait être une espèce de rampe de lancement vers quelque chose qui était de l'ordre de l'absolu. Et c'est peut-être là où je diffère, puisque moi je préfère m'intéresser à cette tension qui existe entre le moment où je fabrique un tableau et où matériellement, par les lignes déformées, j'en ai la preuve, et ce moment de suspens qui est le moment où je peins.
Voilà pour le parallèle entre les formes géométriques de Kazimir Malevitch et celles de Nicolas Chardon. Mais le choix du noir et blanc, pourquoi ?
Le choix, à un moment donné, du noir et blanc tient au fait que, à la fois, c'est l'opposition chromatique la plus radicale, la plus absolue, mais aussi, de ce fait, c'est une dichotomie, une opposition qui a été revendiquée durant le XXe siècle par tout le monde pour à peu près tout et son contraire. Tout le monde se retrouve dans cette espèce de, finalement, dans ce qui est comme une espèce de, à la fois de lieu commun et de grande soupe.
Tout au long des années, de la fin des années 10, il va expérimenter dans plein de couleurs. Et puis, au début des années 20, il va progressivement justifier aussi dans ses textes. C'est quelqu'un qui a énormément écrit, hein, c'est le temps de le dire. Il existe 5 volumes de ses écrits. Dans ses écrits du début des années 20, Malevitch va développer l'idée que le noir et le blanc sont en quelque sorte la synthèse de toutes les autres couleurs, ce qui va l'intéresser beaucoup. Et donc, quand il va constituer ces formes de base du suprématisme, elles sont effectivement en noir et blanc. Malevitch, c'est quelqu'un, une des choses qui est, à mon avis, passionnante avec lui et fascinante, c'est que c'est quelqu'un qui n'a cessé d'expérimenter. Au moment où les couleurs semblent, la palette de couleurs semble se réduire, au début des années 20, c'est aussi une période où il peint un peu moins, mais il commence à une activité d'écriture assez frénétique et où il se développe aussi beaucoup comme pédagogue. Puisque après la révolution bolchevique de 1917, comme vous le savez, il y a une guerre civile qui éclate en Russie, qui va durer de 1918 à 1921. Les grands centres comme Moscou et Petrograd seront particulièrement frappés par la pénurie et par cette guerre. Et donc Malevitch va se réfugier, entre guillemets, à l'invitation du peintre L. Lissitzky à Vitebsk, en actuelle Biélorussie. Il va enseigner dans l'école d'art donc de Vitebsk et il va y créer une sorte de sous-école enfin de qu'il va appeler « Affirmation du nouveau en art » ou en russe « Unovis ». Et il va donc beaucoup enseigner et écrire simultanément dans ces années-là. Et dans certains textes, il déclarera même que, voilà, en fait, il était arrivé au bout de la peinture et ce qui l'intéresse désormais, c'est de traduire cette idée de sans-objet, donc la libération de l'imitation, de la répétition, de sortir de la peinture vers la vie en tant que telle et vers une sorte de compréhension philosophique quasiment de la vie.
Ce que dit Elitsa Dulgerova ici sur la quête de Malevitch du sans-objet, cela va être très important pour la suite de l'épisode et la compréhension de notre croix noire, celle en plâtre. Oui, n'oubliez pas, elle arrive. Pour le moment, on est au début des années 20. Malevitch est professeur à l'école de Vitebsk.
Dans son enseignement, par exemple, dans les années 20, il va intégrer l'art du passé, il va enseigner les artistes de la Renaissance ou toute l'histoire de l'art, si vous voulez. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment le travail du peintre. Le travail pictural, les moyens du peintre, comment on construit un tableau. Et donc ce dépouillement dont témoigne la croix noire ou le carré noir sur fond blanc, c'est une manière de faire la démonstration par les moyens les plus simples de qu'est-ce que c'est que d'être peintre. Qu'on peut se passer des couleurs, de l'ornement, du détail, et avec simplement comme ici deux plans qui se chevauchent et qui sont légèrement décalés, créent une sensation riche de flottement, de mouvement. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il dépouille les couleurs, pour montrer qu'avec très peu de moyens, on peut arriver à une sorte de clarté presque philosophique.
Et à propos de philosophie, Casimir Malevitch va écrire en 1921 un texte, plus politique qu'artistique, qui s'appelle « La paresse comme vérité effective de l'homme ».
Oui, alors ce texte a été effectivement traduit en français dans un petit fascicule sous le titre « La paresse comme vérité effective de l'homme ». On pourrait aussi le traduire légèrement différemment comme « La paresse comme vérité réelle de l'humanité ». Moi, je préfère peut-être ça, je préfère mieux, en tout cas la dernière partie, parce que c'est effectivement dans le texte russe, il ne parle pas de l'homme en tant que tel, ce qui nous aurait pu nous amener à une opposition entre l'homme et la femme, mais vraiment de l'humanité, c'est le mot qu'il utilise en russe. Et le texte a cette ambition-là aussi de penser à l'échelle de l'humanité, donc il n'était pas modeste. Un texte en leçon quand on le lit d'abord oral, d'abord prononcé, qui semble reprendre clairement certaines idées de Paul Lafargue, donc le socialiste français, un des fondateurs du Parti socialiste français, Paul Lafargue, qui en 1883 a publié Le droit à la paresse, donc un petit, alors pour le coup c'est un pamphlet très très militant qui revendique notamment le droit à la réduction du temps de travail des ouvriers pour un temps de travail de 3 heures par jour. Donc la question de la paresse en son opposition au travail. Le texte de Malevitch commence de la même façon, avec les mêmes arguments, en disant Voilà, on observe partout, dans tous les régimes sociaux. Et dans la première partie de son texte, il parlera aussi bien du capitalisme que du socialisme, en disant, voilà, une sorte d'obsession du travail, travailler, par opposition à l'idée de la paresse, qui est dénommée la mère de tous les vices. Et il dit, c'est très étrange, cette obsession du travail et cette condamnation de la paresse. Il fait tout un développement assez long et complexe pour d'abord expliquer par quoi les deux régimes, aussi bien le capitalisme que le socialisme, justifient le travail comme quelque chose qui contribuerait au bonheur de l'humanité. Il dit, voilà, en fait, on voit le travail comme un moyen de ne pas succomber à l'état de l'inaction, aussi comme un moyen d'être actif, d'être dans la production. Mais en fait, c'est la peur de la mort. Le travail, c'est une course contre la mort. Donc on nous met dans une course contre la mort en disant, voilà, il faut travailler pour vivre. Et il dit, voilà, il y a même ce proverbe instauré par le socialisme qui dit, celui qui ne travaille pas n'a pas le droit de manger. Mais non, il se rattrape par rapport au socialisme en disant finalement il y a quand même quelque chose de meilleur dans le socialisme par rapport au capitalisme, parce que dans le capitalisme, les personnes qui possèdent les capitaux, le capital, en fait font travailler les autres avec cette illusion que le travail mène au bonheur. Mais en fait, grâce au travail des autres, ceux qui possèdent le capital, donc les capitalistes, peuvent se garantir à soi-même. Ils peuvent se garantir l'état de paresse pour eux-mêmes. Et il dit, dans le socialisme, du moment où on postule que tout le monde est obligé, il y a une obligation de travail pour tous, il y a une sorte d'égalité. Mais il dit que, voilà, il faut dépasser ce stade-là et profiter, et là il rejoint aussi Paul Lafargue, profiter de l'apparition des machines qui permettent en fait de réaliser une bonne partie du travail, donc pour réduire le temps de travail et augmenter le temps de paresse, mais cette fois-ci non pas la paresse vue comme un défaut, mais au contraire comme une sorte de jouissance de la vie. Et puis il a une réflexion assez étrange, puisqu'il dit, à l'avenir, ce qui serait encore mieux, c'est que quelqu'un encore plus tard puisse libérer les machines elles-mêmes et leur garantir, même aux machines, un droit à la paresse. Donc voilà, il développe pas, mais l'idée est très belle.
Malevitch fait donc un éloge de la paresse, mais surtout une critique du travail comme raison de vivre. Mais alors, quel rapport avec l'art ?
Il fait un argument assez complexe dans lequel il dit que très souvent, l'art et les créations artistiques sont associées au repos. Alors, il ne dit pas divertissement, mais il dit, voilà, donc quand les gens, quand ils n'ont pas de travail, ben, ils vont voir de l'art. Donc, l'art est associé au repos. Mais il dit, ça, c'est une association erronée, parce que l'art, ce n'est pas du repos. Mais il dit, voilà, c'est un travail aussi. Mais c'est un travail qui est libéré des contraintes du travail physique. Et il a une réflexion qui me paraît intéressante, où il dit, dans la création se cache un état particulier de la paresse qui mène vers le perfectionnement d'une inaction physique complète, transposant toute activité physique vers un état particulier d'action de la seule pensée. Comme dans le monde de sans objet, on se libère du poids des objets, de tout ce que ça peut nous peser. Et, de la même façon, en se libérant de l'effort physique, en cultivant davantage la sphère du mental, ou on pourrait aussi dire de l'imaginaire, on atteint un état de paresse positif, où travail et paresse coïncident en fait, mais où il n'y a pas cette dimension du travail qui épuise, hein, qui fatigue, hein, et qui rend les gens, comme on dirait aujourd'hui, lessivés. Et il situe donc l'art et la création dans cette deuxième acceptation qui atteint une sorte de perfection. Il va beaucoup parler de perfection, où finalement l'homme arriverait à atteindre Dieu, la perfection de Dieu.
En fait, moi, je fais un parallèle, disons, avec l'émancipation que la peinture permet dans la perspective suprématiste et l'accomplissement de l'homme au-delà du travail, comme il y aurait un accomplissement des formes au-delà de la peinture et une sorte d'existence dans l'absolu.
À la lecture de La paresse comme vérité effective de l'homme, on peut se dire que c'est une pensée représentative du début du XXe siècle, très marquée dans les idéologies capitalistes et socialistes, bref, quelque chose de daté. Ce n'est pas tout à fait l'avis d'Editha Dulgerova.
Il y a des parties qui, effectivement, sont ancrées dans le contexte historique, on le sent. Mais cette idée, non, je pense que c'est un texte actuel. L'idée qu'on vit dans une société où on nous dit « travaillez plus, vous serez mieux », tout le travail de Malevitch, c'est de dire « on peut peut-être faire autrement ». Et c'est intéressant parce qu'il va transposer, donc, comme je vous le disais, il va développer dans les années 20 toute une philosophie du monde sans objet. Et à un moment donné, il va aussi penser à une architecture sans objet. Et je trouve ça très, très intéressant parce que, effectivement, comment est-ce qu'on peut penser une architecture sans objet, une architecture sans poids, etc. Et toute sa réflexion dans ces années-là, ça va être de comment est-ce qu'on peut se libérer de la matérialité, de l'attraction, de la matérialité des choses et aller vers quelque chose d'autre. Alors, il n'utilise pas le mot spirituel. Et j'ai tendance à ne pas l'utiliser à son égard non plus, il va appeler ça sans objet, mais je trouve que c'est riche comme réflexion, parce qu'on est souvent juste quand même victime de la consommation, de cette chaîne travail-consommation qui se substitue à la vie.
Je voudrais peut-être aussi qu'on parle un petit peu de cette croix noire-là, qui est beaucoup moins connue que celle qui est juste à sa droite, qui est celle en deux dimensions. Il y a une croix noire en trois dimensions, qui est donc sur du plâtre. Et c'est comme une petite brique. Est-ce que vous pourriez me la décrire un petit peu ?
À la différence de celle du tableau, là, la croix est à peu près orthogonale, enfin, croise vraiment en son milieu cette brique de plâtre.
Ça y est, c'est notre croix noire. Créée entre 1923 et 1926, que nous décrit la conférencière Rosemary Stolberg.
Nous sommes ici devant un cube de plâtre blanc à l'aspect mat. 12,6 cm de hauteur sur 12,4 de largeur et d'une épaisseur de 9,4 cm. Ce cube se présente à nous, on le voit comme un bloc, qui fait davantage penser, de prime abord, à un matériau de la construction qu'à une œuvre d'art traditionnelle. On peut même y voir les traces de sa fabrication, notamment les petites bulles d'air qui se forment quand le plâtre est coulé. De face, cet objet forme un carré sur lequel trois bandes rectangulaires noires sont ordonnées de façon à composer ce que l'on reconnaît comme une croix. Une bande verticale noire d'une largeur de 4 cm environ et à mi-hauteur de cette bande, ici à angle droit, une bande horizontale à gauche, plutôt carré, et là, une bande horizontale à droite, carrée elle aussi, et toutes deux d'une même largeur, environ 4 cm. Il s'agit de trois plaques de verre. Ce sont des éléments translucides à l'origine, qui là, sont peints en noir et logés avec précision dans le plâtre. Le cube de plâtre a été coulé dans un moule dont le fond a été probablement garni du motif, ce qui va garantir sa complète incrustation dans le bloc. Nous avons donc un volume élémentaire dans sa forme, un cube, primaire dans son matériau, du plâtre, et complètement minimal aussi dans le choix du blanc et du noir. Sur une des faces, les plaques de verre noir prennent place. On peut voir qu'elles délimitent à leur tour d'autres formes géométriques, quatre carrés blancs. Quand on applique son regard, on a l'impression visuelle que la bande verticale passe devant l'autre, comme si elle était plus proche de nous. Cet effet optique nous indique donc qu'il y a de l'espace entre les deux bandes. En fait, quelle approche peut-on avoir d'un objet comme celui-ci ? C'est une approche littérale qui va s'imposer. Cet objet nous oblige à rester strictement au niveau de ce que l'on voit très exactement. Il va donc exclure toute narration, toute histoire que l'on pourrait raconter, ou tout sentimentalisme. Comment pouvoir se projeter dans ce qui nous est présenté. Il n'y a donc ici que le jeu du volume, du plâtre blanc, comme un morceau d'espace infini, où vont se croiser, on ne sait à quelle distance, mais on le voit bien sans heurts, des objets géométriques qui, dans cet exemple précis, ce que nous avons devant les yeux, composent une croix noire.
Alors, à quoi pouvait bien servir ce morceau d'espace infini ?
Je pense que c'est un élément qui participait des architectones, qui sont ces constructions en plâtre faites par Malevitch, accrochées dans la salle, accrochées au-dessus de cette croix, il y a un carré peint sur plâtre. Et donc, c'est des éléments qui étaient intégrés à des ensembles d'architectones. Ça, c'est plus tardif par rapport à la croix peinte. Et c'est finalement la suite ou le prolongement de la façon dont c'est les signes que Malevitch peint, donc la croix ou le carré ou quelquefois un cercle noir, ces éléments deviennent un peu une sorte de vocabulaire élémentaire et qui signifie justement le mouvement d'émancipation de la peinture et donc qui accompagne dans son esprit aussi l'émancipation sociale due à la suite de la Révolution russe.
Il me semble qu'on a un architecte derrière nous, justement.
Oui, absolument. Donc on voit, c'est une petite construction faite de petits éléments de plâtre. On voit qu'ils sont un peu cassés, qu'ils sont de blancs différents.
Très concrètement, il va faire des maquettes donc, de ce qu'il va appeler architectones. Il subsiste donc des dessins de ces architectones et puis des photographies à la fin des années 20. Ils ont été reconstruits à Paris à l'occasion d'une exposition au moment de l'ouverture du Centre Pompidou. Donc les architectones peuvent être soit verticaux, soit horizontaux. Il leur donne des noms issus de l'alphabet grec, donc alpha, bêta, gotha. Là aussi, on voit un peu son ambition de construire un nouveau langage. Et ils sont conçus de modules, on peut dire, de petits cubes ou parallélépipèdes de différentes dimensions qui sont agencés les uns aux autres, soit sur la verticale, soit sur l'horizontale, mais de manière à ce qu'on ne soit à aucun moment dans la symétrie ou dans la lourdeur. Alors ça évoque aussi un tout petit peu l'architecture de ces années-là, l'Empire State Building, enfin il y a quelques... Mais lui, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de petits éléments. Et dans ses textes, il dit qu'il faut absolument sortir de l'emprise du cube et de l'espace fermé à quatre côtés dans lequel nous avons l'habitude, comme cette pièce dans laquelle nous sommes actuellement, casser donc à la fois cette régularité et évidemment toute impression de symétrie aussi.
Ces maquettes, ces architectones, c'est donc une application en trois dimensions de tout ce dont on a parlé avant dans cet épisode sur le fait de s'abstraire de l'objet.
Il dit voilà que l'architecture ne doit pas créer une nouvelle forme d'ordre, mais un état de repos. Et donc se libérer du poids qu'il associe. Il associe très fortement la notion de poids à la notion d'utilitarisme. Donc comme je le disais, le sans-objet, c'est le fait de se libérer aussi de tout ce que le rapport à l'objet, le rapport de possession de l'objet nous rapporte. Ces architectones, tels qu'il les conçoit, il les rapproche aussi à une idée de beauté qui serait indépendante presque du temps. On ne va pas construire un bâtiment pour un magasin ou pour une école, mais on va penser l'architecture d'abord, comme on ne va pas peindre des pommes ou des paysages, mais on va peindre des formes d'abord. Vous voyez un peu ? Donc c'est une architecture qui, du moment où on détermine ses unités structurelles, donc ces petits cubes ou parallélépipèdes, va nous faire percevoir le monde différemment.
C'est faire de l'architecture qui n'a pour objet qu'elle-même. Faire un bâtiment qui n'a pas de fonction précise au moment de sa conception.
Un bâtiment qui pourrait avoir toutes les fonctions, mais qui ne soit pas déterminé par la fonction.
On a contourné l'architectone qui est dans la salle, et donc du coup, de là où on est, on voit un nouvel élément qu'on ne voyait pas tout à l'heure.
Oui, c'est le fameux cercle dont je parlais tout à l'heure, et qu'on retrouve effectivement sur un des éléments de l'architectone, tel que l'accrochage est fait, permet de reconstituer le trio de figures, le carré, la croix et le cercle.
Comme pour l'étoile, les blocs de plâtre se répondent. Carré, cercle, croix. Puisqu'il est question d'art et de paresse, impossible de passer à côté du cliché qui voudrait que l'art abstrait est paresseux, facile à réaliser, simple, à la portée de tous et toutes. J'ai demandé à Elitsa Dulgerova si Malevitch avait, de son temps, été critiqué pour ses formes géométriques si simples d'apparence.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et ça, cette critique-là, elle vient même de ses pairs, qui s'indignent en quelque sorte de l'importance que s'accorde Malevitch avec cet ensemble, avec cette déclaration, avec l'appellation suprématisme, et qui disent, mais finalement, tout ce baratin pour finalement une simple forme géométrique sur un fond blanc. Évidemment, il y a un petit peu de mauvaise foi dans ces critiques-là, mais oui, oui, il y a cette critique, bien sûr. Et Malevitch, comme d'autres, sont effectivement accusés de désacraliser l'art, mais aussi de le avilir aussi d'une certaine façon. Malevitch, en 1915, il est conscient de ces critiques. Et il existe une très célèbre photographie de la salle suprématiste avec une partie des 39 tableaux. Cette photographie permet de bien voir qu'il a accroché le carré noir sur fond blanc, le quadrangle, dans un angle entre deux murs, dans la partie supérieure, donc sous le plafond. Il se trouve que cet accrochage était très lisible pour ses contemporains parce que dans les maisons traditionnelles russes, c'était l'angle est de la pièce. Cet angle était d'habitude réservé à l'icône, donc aux icônes religieuses auxquelles on adresse ses prières dans la tradition orthodoxe. Comme un pied de nez à la face de la critique en revendiquant, et il revendique d'ailleurs dans ses textes, le carré noir comme une icône du temps nouveau, et il adopte dans certains textes un ton presque biblique, prophétique, en disant « voilà, vous n'avez rien compris et moi je vous montre la voie ». Alors évidemment, ça ne manque pas de susciter des réactions extrêmement virulentes de la part de la critique qui se déchaîne. Alors l'accusation de la paresse en tant que telle, je ne l'ai pas rencontrée, mais on a très fréquemment l'accusation de l'ennui. Pour dénigrer en fait cet art, la critique va dire « ah oui, mais c'est un art devant lequel on s'ennuie ».
Enfin, la question du rien, c'est bien sûr aussi une question que travaille Malevitch, et moi qui m'intéresse beaucoup, c'est justement dans quelle mesure le fait de peindre une forme tout en noir ou tout en blanc, c'est peindre rien ou c'est déjà peindre tout. C'est des questions sans fin, mais qui dans lesquelles il y a une certaine forme d'ironie, voire de théâtre associé à l'art.
Casimir Malevitch faisait partie d'une époque riche en expérimentation par les avant-gardes russes. Il n'était pas le seul représentant de l'art abstrait et pourtant, il est un des rares à être devenu un nom incontournable de l'histoire de l'art. Alors, pourquoi lui ?
Alors, plusieurs raisons. D'abord, avec l'arrivée du régime... après la révolution bolchevique, il y a quelques années d'expérimentation assez inédite où les artistes sont tout à fait acceptés par les structures politiques, voire même y contribuent. Mais très rapidement, évidemment, comme vous le savez, le régime se durcit. À partir de 1932, toute activité artistique qui ne répond pas au dogme du réalisme socialiste est interdite. Et pendant plusieurs décennies, jusqu'au, grosso modo, la chute du mur et la dissolution de l'URSS, énormément d'œuvres d'autres artistes restent dans les réserves des musées et ne sont absolument pas mentionnées ni visibles. Malevitch, en 1927, il est donc invité par le Bauhaus et il fait cette exposition, il montre ses œuvres en Pologne et en Allemagne. Et à cette occasion, il laisse un ensemble très significatif de ses œuvres en Europe. Il comprenait déjà en 1927, il voyait dans quelle direction tournait le vent. Les accusations de formalisme étaient déjà dans l'air du temps et lui-même sera emprisonné à la fin des années 20. Il passera 6 mois en prison au retour justement de ce voyage. Et ses œuvres qu'il a laissées en Europe sont aujourd'hui en grande partie au musée Stedelijk à Amsterdam. Et donc, elles ont été très rapidement visibles en Occident. C'est une des raisons pour lesquelles Malevitch est très connue, beaucoup plus que certains de ses contemporains et contemporaines. La deuxième raison, c'est aussi sa production théorique, qui a été très rapidement, elle, par contre, elle a fuité, elle a pu être connue dès la fin des années 60 par des traductions en anglais. Et Malevitch a fasciné aussi par cette double articulation d'un art plutôt opaque à première vue, difficile d'accès, mais avec derrière un système quasiment philosophique qui est à la fois très riche et intéressant et en même temps tout à fait singulier. Dans ce sens, il se rapproche de certains autres artistes qui ont pareillement développé au début du XXe siècle une œuvre théorique importante, je pense à Piet Mondrian par exemple.
Après le moment suprématiste, Malevitch revient à la figuration, à la couleur, à ces toiles violentes que décrivait Nicolas Chardon au tout début de l'épisode.
Il y a le retour à la figuration à la fin des années 20, voire même cette espèce de figuration extrêmement savante et mentale, enfin, dans laquelle, effectivement, Malevitch joue au peintre, en quelque sorte, puisqu'il signe ses tableaux avec le fameux carré qui devient sa signature complètement. Donc, c'est-à-dire, c'est des sortes de méta-tableaux. Donc, moi, c'est comme ça que je vois cette conclusion. Après, bon, on sait qu'elle est assez dramatique aussi dans son existence personnelle. Finalement, c'est aussi un peu un aveu d'une forme d'échec, en tout cas, d'échec d'accomplir ce type de peinture dans un pays socialiste. C'est une autre histoire, comme on dit.
C'est un artiste qui est aujourd'hui très connu, très enseigné. Je trouve dommage qu'on le réduise toujours à deux, trois œuvres, alors que ça a été quelqu'un d'extrême, qui n'a cessé d'expérimenter tout au long de sa vie, qui est revenu de manière très étonnante et très intéressante à la figuration à la fin, enfin les 5, 7, 8 dernières années de sa vie. On a malheureusement tendance à le réduire à 2-3 œuvres, alors que son personnage, ses idées, ses œuvres mériteraient une meilleure connaissance dans leurs multiples facettes.
J'espère que c'est ce que l'écoute de cet épisode a pu vous apporter. Une compréhension de tout ce qui peut se cacher comme pan de l'histoire et de l'histoire de l'art derrière une croix noire en verre sur un fond de plâtre blanc. On reprend les escalators. On descend. Merci à Nicolas Chardon d'avoir accepté de parcourir les salles du Centre Pompidou pour cet épisode. Merci à Elitsa Dulgerova et à Clémence Boissé qui a prêté sa voix pour la lecture de La paresse comme vérité effective de l'homme, enfin, vous le savez maintenant, de l'humanité. Un podcast Une œuvre est un podcast du Centre Pompidou, écrit et réalisé par Camille Regache, Croix, produit par Clara Gouraud, Carré, mixé par Yvan Gariel, Cercle, et habillé par les musiques de Nawal Benkrayem et Nassim Kouti.